Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
La base.
Dobre den.
Et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission « L'Europe est une fête ». Aujourd'hui, seuls trois pays sont représentés autour de la table, comme vous avez pu l'entendre. Il s'agit de la Lituanie avec Ruta, de la Bulgarie avec Rosita ou Rossi pour les intimes, moi je l'appelle Rossi, et bien sûr de la France que je représente à chaque émission. L'Irlande de Sinead devait aussi être présente autour de la table, mais malheureusement, elle est malade, elle est très malade et elle est restée au lit et peut-être qu'elle nous regarde. On lui fait un petit coucou. Coucou, Sinead. Mais vous, Rossi et Ruta, vous êtes là et en pleine forme. Vous avez la pêche et la patate. Ça va la santé en cet hiver, ce début d'hiver
ou ça va pour cet automne. J'étais un peu malade, mais je suis là, donc ouais. C'est plutôt bien.
Ça s'entend pas en tout cas. Ouais. T'as une très bonne voix, vous avez des très bonnes voix. Et bien moi aussi, la santé, ça va très bien. J'ai pu me reposer cette semaine, j'ai eu de la chance. Et en tout cas, c'est assez agréable de se retrouver à moins nombreux. Alors, c'est bien aussi quand on est nombreux, hein, mais c'est agréable de se retrouver à moins nombreux parce qu'on va avoir le temps de parler un peu plus de vos deux pays. On aura d'ailleurs une rubrique spéciale à la fin de l'émission pour en parler, une rubrique qui nous permettra de découvrir un peu plus la Bulgarie et la Lituanie à travers les personnalités qui habitent vos pays, donc historiques, sportives ou artistiques. Mais aujourd'hui, on va reprendre le thème de l'émission qui est « Mieux s'alimenter demain ». Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu de manger, vous, demain. Mais moi, demain, j'ai un repas de famille. Et pour ce repas de famille, le plat prévu est un des plats préférés des Français. On va manger un couscous.
Ah oui.
Eh oui.
Je voulais dire un tartare.
Eh non, le couscous est devenu un peu l'égal du bœuf bourguignon ou du magret de canard ou encore de la raclette dans le cœur des Français. Et à chaque sondage effectué quand on demande aux Français quel est votre plat préféré, le couscous se retrouve toujours en bonne position dans notre top 10 national. Donc c'est un peu étonnant parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Mais oui, c'est une petite fierté, c'est vrai. L'avantage du couscous, c'est qu'il peut être, il peut satisfaire tous les régimes. On peut faire des couscous végétariens, donc ne pas manger de viande. La semoule peut être sans gluten, donc un couscous sans gluten et végétarien. Et on peut même faire des couscous avec de la viande et du gluten pour ceux qui mangent de tout. C'est des gens qui existent encore, je vous assure. Le couscous peut être révélateur finalement d'une tendance en France ou partout ailleurs. Est-ce que pour mieux s'alimenter demain, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à partager nos traditions régionales et inspirons-nous des meilleurs plats cuisinés dans d'autres régions du monde ? Alors, ça c'est sûrement vrai pour nos ventres et nos papilles, mais pas toujours durable pour notre bonne vieille terre et donc pour le demain au sens large cette fois-ci de notre planète bleue, puisque nous habitons tous sur la même planète, nous sommes tous voisins finalement sur cette planète. Et imaginez par exemple que tous les habitants du monde mangent un couscous demain midi, on devrait probablement faire face à une pénurie de semoule mondiale. Et même peut-être de semoule sans gluten. Donc, alors, ça peut paraître absurde quand je vous dis ça maintenant, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe pour certains plats qui sont devenus internationaux. On pense par exemple au hamburger. Le hamburger, donc, je le rappelle, qui est un plat originaire d'Allemagne et d'Hambourg, même s'il a été popularisé par les États-Unis et notamment par les fast-food américains. Et donc, c'est un des plats les plus consommés du monde. Et donc, le monde entier ne mangera pas de couscous demain, ça c'est quasiment sûr, mais une bonne partie mangera un hamburger dans la semaine à venir. Et ça crée forcément un déséquilibre. On consomme beaucoup de viande parce que les hamburgers en consomment beaucoup. Et est-ce que je me pose la question, est-ce qu'on se retrouvera en pénurie de viande mondiale pour autant la semaine prochaine ? Bon, je laisse le suspens. Moi, je pense pas. Je pense qu'on trouvera on trouvera toujours des bêtes à tuer pour manger des burgers. Mais de notre côté, on va essayer de mieux manger. ou plutôt de bien manger avec la Lituanie et avec toi, Ruta, puisque tu vas nous parler de bonnes choses à manger en Lituanie. Et on verra avec Rossi ensuite pour le demain du thème mieux manger, de mieux s'alimenter demain. Donc tout de suite, on part en Lituanie avec Ruta.
Si vous voulez mieux vous alimenter demain, la Lituanie ne sera probablement pas la destination idéale pour vous.
Ah, ça c'est dommage.
Pour pouvoir survivre aux hivers parfois glaciales en Lituanie, on mange gras, voire souvent très très gras.
Et
c'est vrai que la cuisine traditionnelle lituanienne est fortement changée en calories et reste quasiment inchangée depuis plusieurs siècles.
Alors, que mange-t-on pour pouvoir survivre au froid lituanien ? Quelle est la nourriture si grasse qu'on mange pour survivre ?
Ce sont les fameuses pommes de terre. Qu'on trouve dans la grande majorité des plats traditionnels lituaniens. Je sais qu'avant, Sinéad a déjà présenté dans sa chronique la passion des Irlandais pour les pommes de terre. Mais nous, les Lituaniens, nous pourrons être également appelés de vrais patatophiles, je pense. Si Sinéad, il est d'accord.
Elle est aussi patatophile, je crois, Sinéad.
On compte de nombreux plats qu'on suit uniquement à partir de pommes de terre. Alors là, je commence. Les croquettes de pommes de terre, le gratin de pommes de terre, les crêpes à la viande et au fromage ou à la crème, mais fait de pommes de terre, aussi, bien sûr. Même le gâteau de pommes de terre et les fameuses éplines qu'on ne trouve que sur les territoires lituaniens, enfin, je crois.
Donc, c'est un gâteau sucré, du coup ?
Et non, pas du tout. C'est salé.
C'est salé, d'accord. Et parmi cette grande diversité des plats de pommes de terre, lequel serait ton préféré à toi ?
Les fameuses éplines, sans aucun doute. C'est le plat national, et je le répète, on le trouve que chez nous en Lituanie. Et comme nous aimons bien nous distinguer de nos voisins et des autres pays baltes, nous étions obligés de créer notre propre spécialité, donc les éplins, les éplines. C'est comme ça qu'on prononce ?
Moi j'aurais dit éplines, mais on va peut-être me dire non, en France on dit éplins. Écoute, on va dire zeppelin cette fois-ci.
Ok, sont une sorte de grosse boulette à base de pommes de terre râpées et normalement farcies avec de la viande. On peut les servir avec de la sauce aux champignons ou à la crème aigre, tout simplement. Et surtout, le plat porte le nom de dirigeable de zeppelin à cause de... Enfin, je vous laisse deviner.
Alors moi, j'ai la réponse. Est-ce que Rossi, tu sais pourquoi on appelle ça un zeppelin?
Pas du tout.
Dis-le, je te laisse le dire.
Sa forme. Bien
c'est
sûr.
La forme.
Tu ah sais, oui, d'accord. Oui,
les zeppelins, c'est les espèces de dirigeables allemands qu'on avait.
Ovale,
exactement, qui ressemblent à un gros suppositoire, en fait, à l'horizontale. Non, mais alors, c'est pas pour parler mal du zeppelin lituanien, mais c'est un peu la même forme, en effet.
C'est ça. Et c'est ce que j'ai également appris, c'est que la taille, enfin, la longueur des zeppelins, ça peut varier selon les régions du pays.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, dans l'est du pays, ils sont plus grands que dans les autres régions.
Donc là, tu penses au suppositoire, c'est ça, Rossi, non ?
Non.
Donc pour pouvoir, alors on va arrêter avec le suppositoire, mais pour pouvoir goûter ce plat national, est-ce qu'il faut se déplacer qu'en Lituanie ou on peut le trouver ici à Paris ?
Alors là, malheureusement, il faudra aller en Lituanie pour goûter des zeppelins.
Ah.
Parce qu'il y a un an, j'ai fait un pari avec un ami que j'allais trouver un restaurant à Paris pour lui faire goûter des zeppelins, mais je n'ai pas pu car aucun n'existe. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que ce plat, c'est vraiment spécifique à la cuisine lituanienne. Mais mes amis qui sont déjà allés en Lituanie, ils ont eu la chance de manger sur place des vrais plats lituaniens.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plat lituanien autre que le fameux zeppelin magnifique ?
Mis à part les zeppelins, il y a deux spécialités que je peux citer en particulier, un plat et une pâtisserie, pour lesquelles je n'ai pas vraiment trouvé de traduction en français. Donc c'est Schaltebarche. C'est une sorte de borsch.
Je crois que vous
utilisez ça comment ?
Oui, c'est ça, un borsch.
Donc c'est une soupe glacée rose à base de betterave et chocotis, une énorme pâtisserie en forme de sapin.
D'accord, donc on est toujours sur la forme, quoi.
Oui.
Le zeppelin, le sapin.
J'ai jamais pensé à ça, mais là, ça me paraît pas fou. Et alors que moi, je n'aime vraiment ni l'un ni l'autre, certains de mes amis en sont devenus complètement fous.
Et est-ce qu'il y a une différence ? Ça, c'est juste une question. Entre l'alimentation de nos jours en Lituanie, donc de toi, et celle de tes parents ou de tes grands-parents. Est-ce qu'il y a eu un grand changement, chamboulement, ou on reste sur les mêmes bases ?
Oui, autrefois, c'était bien différent. Quand mes parents ils étaient des jeunes et puis des jeunes adultes, la Lituanie appartenait à l'Union soviétique, justement. Et c'est pour cette raison que l'accès à la grande majorité du produit alimentaire il était fortement limité. Et même à Joudeville, les parents... Enfin, lituaniens de génération un peu plus ancienne ont cette habitude de faire la leçon à leurs enfants qui refusent de manger quelque chose, disant « Oui, mais à l'époque, nous, on devait faire la queue pour acheter ça, ça et ça. » Et en effet, mes parents m'ont aussi parlé de ce déficit alimentaire qui était commun en Union soviétique. Et la plupart des produits qu'aujourd'hui on trouve habituels étaient très rares, soit très chers. Normalement, c'est la viande, le café, les fruits exotiques, surtout les bananes. Il fallait faire vraiment la queue pour pouvoir acheter.
D'accord, donc ça a bien changé. quand même. Ouais. Et pour ponctuer ta chronique, tu voulais nous faire écouter une musique. C'est un groupe lituanien de rock.
C'est un peu fort comme chanson.
D'accord.
C'est un groupe ancien de rock lituanien. Et il y a un fait intéressant sur ce groupe.
Oui.
C'est que dans les années 1999, ils ont fait un concert en Allemagne. Ils étaient un groupe d'échauffement, si je peux dire comme ça.
Ouais, une première partie.
Pour les fameux Nirvana.
Ah, d'accord.
Parce que Nirvana, ils n'étaient pas connus à l'époque. Ils sont devenus connus juste après, 2 ans après ce fameux concert.
Écoute, on écoute tout de suite le groupe, la musique. Alors, c'est Advergduris qu'on dit.
Advergduris.
Très bien, on écoute. Waouh, ça décoiffe, merci. Merci Ruta pour cette musique. Dis donc Rossi, est-ce que toi aussi il y avait une différence dans l'alimentation de tes parents et de la tienne ou de celle de ta génération?
Mais en fait, la nouveauté c'était qu'il y a plein de restaurants étrangères qui ont commencé à ouvrir après la chute du communisme. C'était, par exemple, ma mère, elle n'a jamais mangé du sushi. Elle ne va jamais manger du sushi. Parce que quand je lui dis de quoi c'est fait, elle me dit « Oh non, poisson cru, jamais de la vie. »
C'est vrai, oui. C'est interdit.
Non, c'est pas que c'est interdit, c'est pas dans ses habitudes. Et voilà, elle n'a pas envie d'aller au-delà de ce qu'elle a l'habitude.
Et même sous une autre forme que le sushi, non?
Non, c'est non, je pense que c'est voilà, dans sa tête, c'est dit, c'est cru. Alors,
d'accord, ok.
Merci.
Très bien. Et tu crois que tu avais une question?
Oui. Est-ce que vous avez aussi, du coup, le déficit alimentaire comme nous, enfin, en Bulgarie?
Oui. En fait, surtout après la chute du communisme. Avant, il y avait. Les gens, ils allaient au magasin, ils achetaient un yaourt. Il n'y avait pas tout un.
Oui.
Un rangé de.
Ils étaient écolo, quoi. C'est un peu l'écolo, quoi.
Voilà, mais tu vas acheter un yaourt, tu ne vas pas acheter un Danone ou peu importe quoi. C'est juste,
non, c'est ça.
Tu vas acheter un yaourt. Voilà,
c'est ça. Et tu jettes un peu moins aussi.
Voilà.
C'est sûr.
Et il y avait beaucoup fait maison.
C'est vrai que je n'avais pas fait le lien, mais on est entre ex-URSS. Là.
Voilà.
Donc on va avoir des vrais
conversations. Ex-communiste, pas URSS.
Oh, pardon, excusez-moi.
Nous, c'est l'inverse. Ex-URSS, mais pas communiste.
Ah oui, du cœur. Ah oui, d'accord.
On va en reparler de ça tout à l'heure quand on parlera de des quand on fera la rubrique sur vos pays. Tout de suite, on va passer avec toi aussi. Tu vas nous parler un petit peu de d'une solution pour manger des légumes tout l'hiver
tout
en Bulgarie.
Tout à fait. Dans la vie de mieux s'alimenter demain, on remarque un retour vers le passé, vers la nature, vers le vrai. Mm-hmm. Et dans ce sens, quand je suis arrivée en France il y a 16 ans, j'ai remarqué...
Oui, 16 ans déjà, le
déjà
temps passe
vite, 16 ans, tout à fait. J'ai remarqué un type de reportage qui est passé à la télé qui nous présentait une petite famille toute gentille qui préparait ses propres confitures ou conserves faits maison. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en Bulgarie, c'est quelque chose... très commun. Normal,
ouais,
très commun,
ça.
Voilà. De...
Vous ne passez pas à la télé parce que vous faites vos propres confitures, quoi.
Non, ou plutôt, les reportages qui passent à la télé, c'est pour te rappeler qu'il faut commencer à faire tes conserves à la maison.
D'accord,
voilà.
Ok. D'accord.
C'est, j'étais en Bulgarie il y a une semaine, et ils passaient à la télé, voilà, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire vos propres...
D'accord.
C'est le moment.
C'est la saison.
C'est
okay.
La saison, tout à fait. Et en fait, nous, en Bulgarie, on fait... quelque chose qui s'appelle tourchia.
La tourchia.
La tourchia.
Tourchia, très joli mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la tourchia?
La tourchia, c'est des bocaux en verre dans mm-hmm. lesquels on met des légumes rainés qu'on mange en hiver et qui représentent une salade en accompagnement pour le plat et qu'on mange avec notre fameuse eau de vie qu'on appelle rakia.
Mm-hmm.
Et l'origine du mot, c'est perse et ça veut dire amer.
Donc, boit de l'eau de vie avec ça parce que c'est pas assez bon, donc on est obligé de boire de l'eau de vie pour se la gueule et le manger, ou c'est juste comme ça
parce Non, que parce ça, que c'est, plus... c'est dans les hivers, dans l'hiver, les
Oui, parce
les
que c'est lié à l'hiver,
et
oui,
tout,
c'est ça.
Voilà.
Et donc ça, c'est encore une chose que les Bulgares ont découvert avant les autres.
Malheureusement, non. On aurait bien aimé. Non, mais on l'a rendu meilleur.
Ah,
voilà.
Ah bah, nous aussi on rend toutes les choses meilleures, ça c'est un truc français ça. À mon avis c'est
international, je pense.
Entre la Bulgarie et la France là,
et,
tu vois.
Et autres pays, je pense. Alors, il y a quelques années, quand je vivais encore en Bulgarie, chaque été, j'allais chez mes grands-parents pour préparer la fameuse zimnina.
C'est la fameuse zimnina.
La fameuse
tout à
zimnina.
Fait.
C'est dans des bocaux de verre, on préparait les tourchias, les différents types de tourchias. On préparait les compotes, mais mm-hmm. pas les compotes françaises. Mm-hmm. C'est des légumes en entier, des fruits en entier qui sont bouillis dans de l'eau sucrée.
Ouais.
Et en fait, on préparait des confitures pour qu'on puisse manger en hiver nos 5 fruits et légumes.
C'est magnifique.
Voilà.
Parfait. Et ça, tout le monde le fait en Bulgarie.
Tout le monde. C'est comme une sorte de sport national.
Tout le monde se met à la tourchia pendant
voilà,
l'hiver.
Voilà, tout le monde se met à la tourchia.
Magnifique.
Pendant septembre,
c'est
en fait,
septembre.
C'est la fin d'été quand tu commences à ramasser tous les fruits et légumes.
Donc là, on est en octobre, c'est fini, il n'y a plus de tourchia. Là, on a passé.
Si, un petit peu quand même, le chou, parce que
d'accord.
c'est la saison de chou en fait. Et voilà, et c'est, en fait, on faisait des soirées, des journées où chacun faisait
des soirées tourchia, allez, on met tous les légumes
les
dans
soirées
le
tourchia, c'était quand on les mangeait. Pour les préparer, c'était plus difficile. Et
mais
plus...
il y avait quand même un petit événement familial, quoi. C'était quelque chose qu'on faisait un dimanche après-midi, ensemble. Il y a quelque chose de convivial.
Ça prenait
autour.
Plus de temps qu'un dimanche après-midi.
Ah oui, d'accord, ok.
Oui, ouais, parce qu'il
ah oui,
y avait,
aussi,
par exemple, à mes parents, ils faisaient des 60 bocaux de lutenitsa.
Oui, s'il faut tenir l'hiver, 60, ouais.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est... Après, il doit y avoir encore 60 de compotes et tout ça. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que mes parents, par exemple, ils font beaucoup de zimnina, beaucoup de tourchia. Et mon père, quand il vient avec sa famille, bah, il remplit la voiture. Et comme ça, il a aussi quoi manger.
C'est vrai, il se pense ses tourchia.
Oui, voilà, tout à fait.
C'est énorme, ça.
C'est ça.
Et vous avez il y a des choses par famille qui se font, des originalités de recettes de tourchia ou il y a une recette
oui.
que tous les Bulgares respectent.
En fait, il y a une sorte de recette de base.
D'accord.
Et après, tout le monde par rapport aux régions.
C'est vrai.
Oui, rajoute quelque chose. Mes parents, par exemple, ils rajoutent de l'aspirine dans des bocaux où ils font
l'aspirine.
La tasca tourchia, voilà.
D'accord.
Voilà, c'est quelque chose qui nous aide à ne pas tomber malade.
Bien vu.
En hiver, où il y a des endroits où dans le lutenitsa, il y a plus de tomates, dans l'autre endroit, il y a plus de poivrons, voilà.
Donc ça dépend un peu des régions et tout ça, quoi. Il y a des plats classiques de tourchia?
Alors, il y a, je vais vous expliquer, bonne question.
Ouais, je pose que des bonnes questions, arrête aussi.
Fait. et j'ai les réponses. Alors, je vais vous expliquer. Les tourchias, la plus connue, c'est Tsarska tourchia, qui veut dire la tourchia royale.
Okay.
Elle se prépare à partir des choux-fleurs, piments, carottes et céleri. Mm-hmm. Les légumes doivent reposer dans un mélange de sel et de sucre toute la nuit. Le jus est ensuite mélangé à du vinaigre et porté à ébullition.
Ébullition,
ouais, pardon. Non, mais tu pendant quelques minutes, les légumes sont placés dans des grands bocaux de verre, parfois de 3 litres,
ah oui,
et écrasés à l'aide de branchettes de cerisier et d'une pierre plate. On replie finalement les pots avec la marinade froide. Et on les stocke.
D'accord, alors j'espère que tout le monde a pris des notes. Parce que la semaine prochaine, c'est tourchia pour tout le monde.
Tout à fait. L'autre qui est très connu, c'est tourchia selska tourchia, qui représente la tourchia paysanne.
Ah, ok.
Et qui est de la même procédé que la première, mais on met des poivrons, des tomates vertes, des carottes, des choux-fleurs, choux et céleri.
Et on remet un petit peu d'aspirine pour parsemer tout ça.
Si vous avez envie. Et quelque chose de plus connu s'appelle l'utenitsa. C'est un mélange de purée de tomates et purée de poivrons.
Ok.
Qui remplace assez souvent le ketchup.
Oh.
La sauce tomate sur les pizzas. Et même la bolognaise dans les spaghettis.
Oui, donc c'est un produit qui fait un peu tout, quoi. Tout ce qui est à base de tomates.
Tout à fait.
En même temps, le ketchup et la sauce.
Et c'est fait maison.
On peut le dire puisque Carla n'est pas là et ne représente pas l'Italie ce soir, mais c'est la même chose. Le ketchup et la sauce bolognaise. On
Je
est d'accord.
Je pense que c'est les
pots. Elle n'est pas là pour se défendre. Elle se défendra la prochaine fois.
Tout à fait.
Ouh. Oh, on se calme, on se calme. Bon, bah, je vois en tout cas que tu nous as rapporté, pas de la sauce bolognaise, mais que tu nous as rapporté un petit plat. Qu'est-ce que c'est?
C'est le fameux kisseozele.
Je peux le prendre?
Bien sûr.
Tiens, je prends.
Vas-y. Attention à l'odeur. C'est le fameux kisseozele, ou c'est littéralement de chou acidulé. Ça représente un chou fermenté, mais pas du tout de la choucroute.
D'accord, c'est fait avec amour en tout
cas. Oui, c'est pas relié de les aisselles.
Non, mais il y a de l'amour, c'est sûr.
Beaucoup. Et c'est préparé dans des bidons dans lesquels on met les choux en entier.
Je te laisse ta fourchette ici.
Merci.
Ouais.
Et on les mélange avec de l'eau et du sel. Et pendant plusieurs semaines, ça fermente. Et après, on le mange en salade, comme je vous ai ramené, avec de l'huile d'olive.
On a combien de semaines de fermentation là, sur ce produit?
Ça dépend du temps, en fait, parfois. Parfois, si c'est chaud, c'est plus rapide que quand si c'est froid.
Là, on est sur du froid ou du chaud, là?
N'aie pas peur.
J'ai pas peur.
Vas-y.
J'y vais en toute confiance, c'est sérénité.
Non, mais sérieux.
C'est du chou, quoi.
Oui, c'est du chou.
C'est du chou, quoi.
C'est du chou. Mais comme ça, on mange le chou en hiver.
Dis-moi ce que t'en penses, Ruta.
Voilà. Et la chose qui est la plus curieuse, c'est qu'on boit le jus qui reste dans le bidon. Et on l'utilise.
Ça va, Ruta? Ça t'a plu?
J'ai la même réaction que toi. C'est des choux.
C'est du chou, quoi. Hein.
Voilà. Et
c'est quoi le petit truc rouge que t'as mis, là?
C'est du...
C'est paprika?
Oui, c'est ça.
C'est pas... Oh, je cuisine un petit peu de paprika.
Oui, c'est ça.
Et bon réflexe.
Oui.
Bon, moi je mange. Hein.
Vas-y. Et comme je disais, l'eau.
Vas-y, vas-y.
Le jus qui reste dedans, on l'utilise pour les lendemains après les gueules de bois.
C'est vrai, c'est efficace.
Ouais, c'est ça. Pas le chou.
Bah, je vais le garder pour demain alors.
Vas-y. Et pour accompagner tout ça.
Oui, dis-moi.
J'ai choisi une chanson d'un groupe.
Musique.
Voilà. Un groupe qui s'appelle Wikeda.
Wikeda.
Voilà, la chanson s'appelle Whisky Sfostati.
Ah, whisky, j'ai compris.
Whisky Sfostati ou whisky avec des cacahuètes.
Eh ben écoute, on écoute tout ça et moi je mange un petit peu. Bon, alors comment ça s'appelle? Celui du Kisseozele, c'est ça?
Kisseozele.
Kisseozele, c'est facile à dire. On écoute Whisky et Sfostati.
Sfostati.
Voilà.
Не съм даже красив, не умея да говоря хубаво, такъв съм си мега селив. Видях я там, самотна на бара, въртеше унесено кутия в носни цигари. Видях също, че гледате всички, аз пък се опитах да я почерпя във тъчки. Върти си, не спира кутия да носни цигари, а на мен подължичка да взе да ми пари. Бокс, Джеймс Бонд, чух се да казвам отговора и знаете всички, въздъхнах отчаяно и се обърнах към моето уиски и моите пастъци. Уиски, с пастъци, и от време на време, падеми, уиски, с пастъци.
postaci smrti i od vremena vreme batemi. Естествено е всичките сутрини да ме боли глава. Това се случва на хиляди българи, Европа не я тропва това. Че пия сам, ето какво ме тревожи. Самотата е тъжна, скучна, досадна. Имам случайно някаква работа, нищо, че не съм упорит. Работлив, закъснявам, разбира се, не влагам старание. Шефа ме заплаща всеки ден с уволнение. Пън, пън, чуго да пряска, как отговориха, знаете всички въздъхнат отчаяно. И се запътиха моето уиски, моите пастъци. Уиски, уиски, с пастъци. И от време на време, патеми. Уиски, с пастъци. И от време на време, батеми. Сам че адски е глупаво и банално дори. Исках да кажа нещо хубаво, интелигентно нещо, нали? А то пък виж какво се получи. Младите до това какво ще научат. Не, нямам, нямам какво да ви дам. Нищо не мога и нищо не знам. Ключа съм забравил и не това моята барака. Не ми харесва тук, тук какво ли има оттатък. Цигарите са вредни, ужасно за здравето. Защо не ги остави още на времето. Нищо не мога и нищо не знам. Не, 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 нямам, нямам какво да ви дам. Освен уиски с пастъци. И от време на време батеми. Уиски с пастъци. И от време на време батеми.
C'est vraiment la fête là. Là, on se sent dans une atmosphère de fête. Le tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, c'était magnifique. Dis-moi, Ruta, est-ce que vous aussi en Lituanie, vous avez des techniques comme en Bulgarie de conservation pour l'hiver? Est-ce que vous faites ces choses-là?
Oui, effectivement. En plus, comme on a des hivers très très glaciales, comme j'ai dit avant. Et puis dans ta chronique, Rosta, j'ai pensé que justement, on a exactement la même chose. On fait des compotes, des fruits. Oui. Je sais que dans le frigo de ma grand-mère, il y en a plein, toujours. Dans toute l'année, il y a des petits... je ne sais pas comment on s'appelle, mais...
Des petits pots, des petits
briques. Des petits pots, justement, avec les confitures faites à la maison.
Ça. C'est aussi quelque chose qu'on refait en France, mais c'est vrai qu'on le fait peu dans les grandes villes. On va au supermarché assez facilement. Et moi, en tant que personne que je peux considérer jeune, même si elle vieillit de plus en plus... Je ne me fais pas du tout ce genre de choses, où les gens qui m'entourent font rarement des confitures. On va passer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Sinon, on passe tout de suite à la prochaine rubrique, qui est sur vos pays respectifs, qu'on va apprendre à découvrir. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes moins nombreux autour de la table, je pourrais même dire moins nombreuses, puisqu'il y a une majorité de femmes autour de la table, je voulais profiter de cette opportunité pour parler un peu plus de vos pays, comme je le disais, parce que c'est des pays qu'on ne connaît pas du tout en France. Et donc, moi, ce que je connais de la Lituanie, par exemple, c'est que c'est un pays démocratique, je crois.
Oui, et déjà pas mal.
Déjà, c'est un bon point. Et c'est un pays que j'associe assez facilement avec l'Estonie et la Lettonie. Oui. Donc pour moi, c'est comme si c'était un pays en trois pays, en fait. Tu vois, c'est cette idée.
C'est ça. Pour la plupart des gens, c'est les pays baltes. On ne sait pas trop.
Ouais. On ne voit pas la différence. Ouais. Et en Bulgarie, alors moi, je sais simplement que c'est un des pays les plus pauvres d'Europe.
Oui.
Et que dans les années 90, il y avait une équipe bulgare de foot qui était super forte, notamment avec la star et le chef de file qui était Ballon d'Or, Risto Stoichkov.
Tout à fait, Stoichkov.
Comment ?
Stoichkov.
Ok, d'accord. Donc je le savais, je croyais le savoir, mais finalement, je le savais si peu. Et donc, c'est des petites choses que je savais. Et donc, est-ce qu'on peut faire un petit jeu entre nous ? Je vais vous demander des personnalités de vos pays et à travers ces personnalités, allez, vous allez me dire, écoutez, lui, pour parler. Alors par exemple, moi, est-ce que vous avez une personnalité historique qui peut incarner votre pays ou qui peut qui ressort dans votre pays. Un peu comme nous, on a Napoléon, Charles de Gaulle. Ruta, est-ce que tu as quelqu'un qui te vient à l'esprit, par exemple?
Oui, c'est la personnalité que j'aime beaucoup. Enfin, j'apprécie beaucoup. En français, je crois que ça se prononce, je vais essayer, c'est Émilie Platère. Ou okay. Emilia Platerite en lituanien.
Dis-le en lituanien.
Emilia Platerite.
D'accord.
Et elle est une sorte de, on peut l'appeler un Jeanne d'Arc lituanien.
D'accord, ok.
Et elle est bien connue pour sa participation au combat durant l'insurrection des années 1830.
D'accord.
C'était contre la Russie.
Ok.
Contre l'Empire russe, parce que Lituanie faisait partie. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est considérée comme un héros national, pas qu'en Lituanie, mais aussi en Pologne et en Biélorussie.
D'accord, ok.
Donc là, je ne sais pas trop si je peux dire que ça incarne la Lituanie.
D'accord, on ne sait pas si elle est lituanienne ou polonaise ou biélorusse.
Si, il y a un débat. C'est toujours un débat.
Donc toi, tu veux dire qu'elle est lituanienne. Moi, je veux dire 100%. Si je demande à une polonaise, elle va me dire qu'elle est polonaise. Si je demande à une biélorusse, elle va me dire qu'elle est biélorusse.
Exactement.
Ok, j'ai compris.
Donc c'est un peu ambigu.
On a la même chose avec certains personnages. Chez toi, Rossi, vous avez des personnages historiques comme ça qui se dégagent?
Oui, le plus connu s'appelle Vassili Ourlevski.
Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je ne connais pas cet individu. Dis-moi, qui c'est?
C'était une personne qui a créé plein de comités de résistance contre l'Empire ottoman.
D'accord, parce donc que... c'est un Jean Moulin, mais contre l'Empire ottoman, quoi.
Voilà, tout à fait, qui était caché par plein de jeunes, en fait, qui... Quand je dis caché, c'est parce qu'il était recherché.
D'accord, ok.
Et en fait, il se déplaçait de ville en ville pour créer ses comités.
Ok.
Mais il se cachait chez les gens et dans les sous-sols, comme, un peu comme les...
Ok. D'accord, il était caché, quoi.
Il était caché.
Et c'était à quelle période, ça, du coup?
C'était...
L'Empire ottoman, j'ai du mal à le situer, moi.
Alors, l'Empire ottoman, c'est de 14e ou 19e siècle.
Ok, très bien.
Voilà, c'est 5 siècles.
Et ce personnage... Donc, voilà, pendant ces 5 siècles...
Et il était vers la fin. Vers la fin, c'est vers 1850.
Donc, il a déclenché l'indépendance, quelque part.
Il a commencé.
Il a participé à déclencher... Je ne vais pas dire que ce n'est pas lui qui a déclenché l'indépendance, mais...
Alors, l'indépendance, on l'a eu grâce aux Russes.
Ok.
Voilà. Mais lui, il a commencé en fait
alors
à
que nous,
rassembler.
Nous, c'est l'inverse.
Oui. Alors c'est drôle ça, parce que la Lituanie, vous étiez pas dans ce. Voilà. C'est l'inverse en fait.
C'est ça. Voilà. Mais lui a commencé en fait à rassembler les gens, les Bulgares, pour qu'ils commencent à se rebeller.
D'accord.
Contre les Turcs. Et il est considéré comme le plus grand héros national bulgare. Mm-hmm. Et on l'appelle l'apôtre de la liberté.
L'apôtre de la... Et au
liberté.
Début, j'ai entendu la poutre de la liberté. Je me disais, qu'est-ce que ça veut
l'apôtre.
Dire L'apôtre. L'apôtre de la liberté,
tout à fait.
D'accord. Et alors, juste comme ça, là, ça, c'est qui le président de vos pays respectifs?
C'est un général. Il s'appelle
général
Roman Radev.
Roman Radev.
Ouais.
Il est gentil avec vous?
Il est très gentil, mais malheureusement, nous, on est une démocratie parlementaire.
D'accord.
Et forcément, c'est pas lui... qui fait la loi,
okay.
Mais lui, c'est juste surtout le visage.
Donc, vous avez un Premier ministre.
Tout à fait.
Et le Premier ministre, c'est ?
C'est Boyko Borisov.
Borisov, oui. C'est le nom qui revient facilement. Et alors, que pensent les Bulgares en général ?
C'est très drôle parce que lui, c'est son troisième fois d'être Premier ministre. Les deux premières, il ne l'a jamais allé jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Il était toujours... En fait, la population a fait des manifestations. On l'a viré, si je peux dire comme ça.
Il est revenu.
Et on l'a réélu. Il était réélu chaque fois. Et là, c'est troisième fois.
Eh ben, bravo.
Voilà.
Ben, c'est un champion de politique. Alors, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut savoir. Les idées, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'en politique, il est très fort parce qu'il est encore là.
Voilà.
Et en Lituanie, alors, le président?
Maintenant, on a une présidente femme depuis 9 ans, Dalia Grybauskaitė.
Ah, oui.
Et dont on est très, très fiers.
Très bien, bravo.
Et les gens l'aiment, généralement.
Elle est populaire.
Elle est assez populaire, mais c'est dommage parce qu'il va falloir la changer.
Pourquoi ?
À 2019.
Pourquoi il faut changer ? Elle ne peut pas se faire réélire ?
Justement parce que comme elle a déjà fait deux mandats.
Ah, d'accord.
Elle ne peut pas faire troisième mandat de suite comme ça.
Trop de soi.
On va changer.
Trop populaire.
Voilà. Et là, ce qui va arriver, je ne sais pas.
D'accord, très bien. Donc là, on va passer dans une autre catégorie. Est-ce que vous pourriez me citer un ou deux auteurs qui ont marqué votre pays ? Des grands écrivains. Est-ce qu'il y en a déjà ? Est-ce que vous savez écrire déjà ? Non, mais est-ce qu'il y a des écrivains
français,
dans... Non, un bulgare et un lituanien. Dis-moi aussi.
Oui, alors nous, on a plusieurs, comme partout, plusieurs écrivains, poètes. Le plus connu, si je peux dire comme ça, hors de la Bulgarie, s'appelle Ivan Vazov. En fait, quand je dis le plus connu, c'est parce que c'était le plus traduit.
D'accord, ok.
Il a écrit un livre qui s'appelle en français « Sous le joug ».
Ok.
Voilà, qui représente.
Et il est contemporain ?
Non, non, pas du tout. En fait, il est fin de l'année 1800.
D'accord.
Voilà. Et il l'a écrit, c'était le premier roman, c'était un roman historique où il avait une histoire d'amour sur le fond de, de l'Empire ottoman.
D'accord.
Fait, il avait la résistance et tout ça. Et il est traduit en 30 langues.
D'accord. Voilà, donc, en fait, là, on comprend que finalement, la Bulgarie était un pays assez marqué par l'Empire ottoman, forcément. Cinq
ça
siècles.
Ça fait cinq siècles, quand même.
Oui, c'est sûr.
Tout à fait.
T'as un autre auteur qui...
L'autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nikola Vaptsarov, c'est un poète.
Ah, d'accord.
Qui écrivait dans son temps libre. Et c'est un poète communiste.
Mm.
Dans ses poèmes, c'est le centre, c'est l'homme, en fait, en tant que personne, comme humain et humanité. Et il était dans la résistance contre la démocratie, pas contre la démocratie, mais pour, pour le communisme.
D'accord, donc voilà. Contre la démocratie. Oui ou non ? Oui ou non ? Est-ce qu'on peut faire du communisme
contre
avec
le fascisme, je pense.
D'accord, ça, bonne réponse.
Voilà.
On garde.
C'est ça.
Et chez toi, Ruta, alors les auteurs célèbres ?
Je ne sais pas si c'est un auteur le plus connu, mais c'est celui qui m'a marqué le plus lors des cours de littérature en école, en tout cas. Il s'appelle Antan Ashkema. On peut lui rapprocher à Albert Camus. On dit que c'est Albert Camus lituanien.
Ah, c'est marrant ça.
Parce qu'il appartenait les deux dans la vague de... Alors là, je ne sais pas prononcer ce mot.
Dis-nous.
Existentialisme.
Tu l'as dit parfaitement.
Voilà.
Bravo.
Et il est le plus connu pour son ouvrage qui en anglais, ça s'appelle The White Shroud.
Ok, d'accord.
Alors en français, je crois que c'est le linceul blanc.
Linceul blanc.
Mais je ne suis pas du tout sûre.
Le white, je l'avais. Mais l'autre mot en anglais, je ne l'avais pas. Je dois t'accorder ça.
Ce que j'aime bien le plus, c'est que quand tu lis cet ouvrage au début, tu peux imaginer que c'est juste un mélange chaotique des pensées. Mais alors, il y a beaucoup de sens et du lien caché. Il faut vraiment avoir un bon bagage d'érudition, je peux dire comme ça, pour comprendre pour déchiffrer ces ouvrages.
D'accord.
Ce que j'aime le plus. En fait, c'est le... Enfin, le son de cet ouvrage, c'est la tragédie de l'existence d'un être humain. Et c'est l'histoire sur un Lituanien qui travaille tant qu'opérateur d'ascenseur à New York. Et je crois qu'on peut aussi rapprocher ça à l'exodus de nos jours des Lituaniens. Enfin, les Lituaniens qui se déplacent à l'étranger et qui ne trouvent pas forcément sa place.
D'accord.
Enfin, leur place.
D'accord. Très intéressant. Maintenant, on va passer à d'autres personnalités. On doit un peu enchaîner parce que là, l'émission file. Je voudrais savoir si vous avez des peintres, des sculpteurs, des artistes. Et je vais poser la même question pour les sportifs. Et comme ça, vous allez me citer tous ces gens-là. Ruta, je peux te laisser commencer cette fois-ci ?
Avec les peintres, oui. Il y a le plus connu mondialement célèbre, c'est Mykolajus Konstantinas Čiurlionis. Et en fait, vous pouvez voir ses ouvrages. Il y avait l'exposition au musée d'Orsay cet été.
D'accord.
Ça s'appelait Les âmes sauvages. C'était pour marquer le centenaire de l'indépendance des pays baltes. On peut trouver les peintures des artistes.
Alors, est-ce que sur ces peintures, il y a des femmes toutes nues ? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Non. C'était de symbolisme.
D'accord.
Donc, il n'y avait vraiment pas des femmes nues, malheureusement pour toi. Mais...
Non, mais je dis ça, je plaisante. Hein. Et en Bulgarie, est-ce que vous avez des artistes
Le plus connu, c'est Christo.
Oui, Christo.
Voilà, c'est la personne qui a enveloppé Pont-Neuf ou Reichstag.
J'ai la référence.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Lui avec sa femme apparemment.
Donc en fait, Christo, si les gens ne savent pas, c'est un artiste contemporain.
Voilà.
Qui vit encore de nos jours, qui a emballé le Pont-Neuf.
Tout à fait. Voilà.
À Paris. Voilà.
Oui. Et l'autre, c'est un peintre qui est très très connu en Bulgarie, qui s'appelle Vladimir Dimitrov et qu'on l'appelle Maestro, qui veut dire le maître.
Le maître.
Le maître. Qui a dessiné beaucoup de scènes traditionnelles de la vie bulgare.
D'accord.
Voilà.
Et ça, c'est un artiste que tu aimes particulièrement ?
Si, j'aime bien, parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise. Et dans ses paysages, parfois, vous pouvez voir un peu de Cézanne, ces couleurs un peu chaudes.
Ça ressemble à Cézanne.
Voilà.
Il n'y a pas à Cézanne, les ânes, non, l'animal. Non, c'est bon, on va. Ça, c'est une blague pourrie. Et les sportifs ? On a parlé de Stoïkov, que je ne sais toujours pas prononcer.
C'est ça.
Et en Bulgarie, alors ?
En Bulgarie ? En Lituanie ?
En Lituanie. Lituanie, Bulgarie, excusez-moi, la ping-pong.
Alors là, je dois citer forcément deux. Il y a un homme, Gedrunas Savickas, et lui, il a un statut d'un homme le plus fort au monde. Et on est très fiers de ça, que ça soit un lituanien,
l'homme le plus fort du monde est lituanien.
C'est ça, et il y a deuxième sportif.
Laissez-moi rire.
Ah, ce sont surtout pas les Français.
Non, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais j'aurais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait de. Quelle performance il a fait pour être l'homme le plus fort du monde? Il a participé à des concours d'hommes le plus fort du monde?
C'est ça. Il y a des concours comme ça. Il y a des concours des strongmen.
Ah oui, c'est ceux qui portent les pneus, là.
C'est ça. Voilà,
exactement. Ah oui, les porteurs de pneus. Bon, bah, c'est le champion du monde des porteurs de pneus. Hein, bravo. Hein.
Pourquoi pas.
Hein. On peut le féliciter pour ça. Alors, moi, les dernières personnalités que je voulais découvrir auprès de vous, c'est un peu des personnalités que je préfère. C'est les gens qui vous entourent, que vous pourriez me dire, bah là, en fait, mon ami ou mon mari ou mon frère ou mon père, ils représentent parfaitement la Bulgarie ou la Lituanie. Est-ce que vous en avez autour de vous, des comme ça, les François le Français, pour ceux qui ont la référence?
Moi, je.
Rossi.
Oui. En fait, je ne serais pas très gentille, mais c'est en fait l'ex-mari de ma cousine.
Qui est un bulgare typique.
Qui est un bulgare typique dans le mauvais sens.
Ah.
Voilà. Il y a. Nous, on a dans notre pays un mot qui s'appelle Baïgano.
Baïgano.
Qui est parti. Au début, c'était un nom propre qui est devenu nom commun. Mm-hmm. Qui représente le pire qu'un bulgare peut l'être. C'est la personne qui est très fière de ce qu'elle est, mais okay. Dans le mauvais sens, qui est pas polie,
okay.
Qui profite.
C'est un Français, quoi, en fait.
Apparemment, on les a partout. Et voilà, malheureusement, c'est le mari de ma cousine. Il est un peu dans ce sens
okay.
Où voilà, il a pas de respect pour les autres. Voilà,
il est tout le temps à se mettre en avant et à pas écouter les autres.
Voilà.
Il y en a. Et donc ça, c'est un comment? Baïgano, t'as dit?
Baïgano.
D'accord, ok. Et en Lituanie, vous avez toi, autour de toi, t'as des personnages comme ça?
Alors là, comme ça, la question n'est pas du tout facile, mais je pense que ça sera mon père.
Ah, pourquoi?
Je trouve que les vrais Lituaniens, on a ce lien très fort avec la nature. Mm-hmm. Et mon père, son rêve quand il était gamin, c'était de devenir un forestier. Un garde des forêts.
D'accord.
Donc déjà, il y a ça. En plus, il aime bien manger bio. Ouais. Après là, je sais pas, parce que c'est pas forcément très lituanien, parce que là, c'est à la mode, même ici en France.
Oui, c'est sûr.
Ouais, mais
c'est un bobo, quoi, en fait. Non, je plaisante.
Bobo lituanien.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on peut parler de bobo lituanien? C'est une question qu'on aura sur une prochaine émission.
Voilà, pourquoi pas.
Pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc, merci. L'émission se termine bientôt. Avant de finir et avant d'aller vers de nouvelles aventures, je vous propose un petit jeu, le petit jeu qu'on fait à chaque fois à la fin des émissions. Je vais vous proposer une citation et vous allez me dire de quel pays européen vient cette situation. Citation, n'importe quoi. Alors la citation, c'est « Celui qui veut manger des œufs doit supporter les poules ». Ting, tang, ting. Allez proposer des pays. Allez-y.
Italie ?
Non.
Allemagne ?
Non.
Oh, j'espère que ça ne sera pas la Lituanie.
Non.
C'est pas Bulgarie, c'est sûr.
Non. Celui qui veut Espagne. Manger des œufs doit supporter les poules. Non.
Angleterre.
Non.
France.
La France.
Non. On va plus haut.
Danemark.
Danemark. Bravo. Donc on comprend. Celui qui veut manger des œufs doit supporter les poules. Donc il y a toujours une conséquence de ce qu'on récolte en fait quelque part. Maintenant, je vais vous remercier tous pour cette émission en petit comité certes, mais très agréable. Merci Ruta. Merci Rossi. Merci Ruta. La prochaine fois, tu viens avec un zeppelin par contre. Hein.
Là,
tu nous as vendu le zeppelin. La prochaine fois, tu reviens avec ça. Merci Rossi, pour cette dégustation. On va tenir tout l'hiver grâce à toi. Et demain, j'aurai pas de gueule de bois.
Tout
merci beaucoup. Merci à Radio Grande Contrôle de nous accueillir. Merci à Mafé. Merci à Mathilde qui n'est pas là, mais merci. Et merci à PA qui est là. Et merci à tous d'avoir nous avoir aidé à produire cette émission. Donc vous retrouverez L'Europe est une fête, notre émission, via notre page Facebook. Donc vous tapez L'Europe est une fête sur Facebook, vous le trouvez. Et même sur Google, vous pouvez trouver la page, c'est extraordinaire. Vous pouvez aussi vous retrouver l'émission sur Radio Grande Contrôle, donc la page Facebook de Radio Grande Contrôle. Le podcast sera disponible sur SoundCloud et sur iTunes. On va se dire au revoir dans toutes les langues. 1, 2, 3. Au revoir.
Désolé.
Vous êtes en retard. C'est pas grave, à la prochaine, salut.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.